rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaud d'Hauteville au micro de Cetre Radio. Et je vous retrouve pour notre rencontre hebdomadaire avec l'un des évêques de notre belle région. Et pendant tout ce mois de mai, nous sommes accompagnés par Monseigneur Camiade. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibaud, bonjour aux auditeurs.
Voilà, nous nous retrouvons pour cette troisième émission. Et après avoir un petit peu discuté du sujet des visites pastorales, du sujet aussi qui vous préoccupe d'un colloque que vous allez prochainement organiser sur la séparation de l'Église et de l'État, qui vous a été inspiré par les naissances dans la cathédrale, nous allons glisser vers un autre, tout autre sujet, un sujet qui vous vient à la fois, qui concerne toute l'Église de France, parce qu'on sait que ce sujet est abordé dans d'autres diocèses et on sait que vous en discutez entre évêques, mais qui vous impacte, vous, énormément, d'autant plus que votre diocèse est assez pastoral. Donc évidemment, vous êtes très concerné par ce sujet, c'est celui des fraternités missionnaires locales. L'Église se transforme, elle doit bouger, elle n'a pas le choix, elle est obligée de bouger. Vous pouvez ça comme ça? On n'a pas le choix?
On n'a pas le choix, on a toujours le choix. On peut rester immobile, mais au bout d'un moment, ça risque d'être un petit peu signe d'un manque de vitalité. Ce qui est quand même ce que nous sentons tous, c'est que nous n'avons plus les forces de continuer tout ce qui a pu exister si on remonte à 50 ou 60 ans. Donc on a été obligé de s'adapter aux capacités que l'on a. Et souvent on a vécu cette adaptation un peu comme si on était en état de siège, on résiste et au fur et à mesure il y a un rempart qui craque et puis un autre et puis un autre. Et puis alors on se replie et le risque du repli est réel et profond, dans le sens que je sens bien que quand on dit on va redessiner la carte des paroisses, ce que nous essayons de faire dans le diocèse, beaucoup de gens comprennent, on va plus exister, notre village, il n'y aura plus rien, ouais. Et on va devoir se regrouper sur, ouais, sur un seul village, c'est-à-dire c'est la logique du repli. Mmh. Et en fait, il faut trouver une autre logique qui n'est pas celle du repli, qui est celle de là où je suis.
De la croissance.
Comment je sème l'évangile, même si c'est modestement, même si ce sont que des germes qui vont pousser. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même, pas dans tous les villages, il faut bien que nous le reconnaissions aussi, il y a des villages où, au moins pendant un temps, il n'y a plus vraiment de chrétiens motivés pour être évangélisateurs et pour vivre une fraternité entre eux. Soit parce qu'il n'y a plus la foi, ou il n'y a plus qu'une ou deux personnes, mais qui sont trop âgées ou qui ont l'habitude en fait de se rattacher à d'autres communautés, ou il y a des gens, mais ils ne s'entendent pas entre eux. Il y a des querelles de bornage,
des villages.
Qui datent du 19e siècle, oui, mais oui, qui sont toujours présentes. Et donc, il n'y a pas la fraternité. Voilà. Et est-ce que ce qui est une intuition en fait, que portent beaucoup d'évêques dans le monde rural, dans toute la France, je ne sais pas ailleurs, mais c'est qu'un des lieux qui évangélise, c'est quand il y a des chrétiens qui vivent la fraternité chrétienne, même s'ils sont 3, même s'ils sont 10, dans un tout petit village, s'ils sont présents, s'ils sont attentifs aux autres, vivent la fraternité, c'est prier ensemble, c'est porter ensemble la préoccupation du monde dans lequel on est, c'est-à-dire dans un village, mettons, s'il y a 100 habitants, s'il y a 5 chrétiens qui viennent prier à l'église, et de choses une, soit ils pensent qu'à eux, soit ils pensent aux 95 autres, et ils savent que dans telle maison, il y a une personne malade, dans telle autre, il y a un enfant qui va passer des examens, et on va prier pour lui aussi. Enfin, ils savent quelle est la vie du village, qu'il y a un agriculteur qui a tel ou tel problème, etc. Donc, porter cela dans la prière, c'est ça, vivre la fraternité chrétienne. Et il n'y a pas forcément besoin de choses très compliquées pour que ça évangélise. Si vraiment il y a une communauté qui vit là l'évangile et qui essaye d'approfondir avec ce qu'on est, avec nos faiblesses, s'il y a une petite communauté qui vit là, ça va se sentir. Voilà. Alors et moi, j'encourage à une visibilité de cette fraternité-là, de cette réalité-là. dans beaucoup de villages, il y a des gens qui s'occupent, par exemple, de l'entretien de l'église, de fleurir, de nettoyer, etc. Et si, bien sûr, on se contente de faire ces choses-là, ce qui est très bien, il ne faut pas arrêter, sans prier, sans le porter ensemble comme une fraternité chrétienne, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, souvent, la pratique, c'est de dire, ben, tant qu'on peut, il y a un prêtre qui vient une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois, voilà, quand il peut, dire la messe, et d'autres gens viennent parce qu'il n'y a pas la messe ailleurs pendant ce temps-là. Et finalement, la fraternité locale qui existe, elle est noyée dans les autres fraternités locales d'ailleurs. On perçoit plus cette vie chrétienne. Alors, il ne s'agit pas de supprimer la messe du dimanche qui doit être le rassemblement dominical, qui doit être significative.
Mais ce n'est pas une communauté d'attente, c'est une communauté qui peut vivre par elle-même. Elle ne fait pas qu'attendre le prêtre, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, c'est ça. Et en fait, au-delà de la pratique dominicale qui doit être continuée et qui est très importante, il y a la vie chrétienne locale, voilà, et la fraternité locale. Et pour ça, ça demande un encouragement. Et ça demande quand même aussi aux prêtres de la paroisse, mais peut-être pas uniquement, mais aussi aux équipes d'animation pastorale, de soutenir ces fraternités locales, de les repérer, de voir ce que les gens vivent, de leur donner des idées pour que réellement elles enracinent dans la foi et dans la prière leur action et leur présence dans le village. Et peut-être aussi de faire remonter par ces fraternités des intentions de prière à la messe du dimanche qui va avoir lieu dans, peut-être pas dans leur église, mais dans un autre lieu où, qui va plus rassembler. Voilà, il s'agit de retrouver cette dynamique de présence humble, hein, ça sera pas des grosses choses spectaculaires, mais enracinées dans la foi et dans le Christ, cherchant à vivre la paix déjà entre voisins, c'est pas toujours si facile, mais c'est ça qui est révolutionnaire et c'est ça qui est le signe de l'Évangile. Si on n'est pas capable de surmonter les petites querelles ancestrales, comment pouvons-nous dire que nous croyons en Jésus ressuscité et qu'un jour nous allons nous retrouver tous au ciel alors que nous ne pouvons pas nous parler sur la terre?
Mais en fait, c'est génial parce que là, vous renversez complètement le constat de départ. Bon, on a commencé cette émission sur un constat un peu terrible. Oh là là, ça ne va pas en diminuer. En fait, là, vous faites le contraire. Vous embrasez complètement. Vous multipliez les foyers d'évangélisation. Vous encouragez les signes visibles.
Peut-être que j'en rêve. Mais c'est ce que je voudrais encourager. Ouais. Et nous allons avoir une journée de formation. Alors, on a travaillé aussi là-dessus avec l'évêque de Tulle, qui, depuis plusieurs années, a lui aussi lancé ce projet des fraternités missionnaires locales. Il en a parlé dans ses orientations pastorales diocésaines de 2016. Moi, j'en ai parlé dans la charte des paroisses parue fin 2017. Donc nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde dans cette vision-là. Et nous allons travailler cela toute une journée à la fin du mois de mai avec un intervenant qui sera M. François Maug, qui est ecclésiologue et qui va nous aider à réfléchir sur les transformations à vivre dans l'Église pour vraiment que les EAP, donc c'est une formation pour les EAP, les équipes d'animation pastorale, encouragent ces fraternités missionnaires locales.
Ça fait beaucoup de monde qui est concerné pour le coup, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes d'animation pastorale dans le diocèse, donc deux diocèses en plus en même temps.
Oui, tous les ans, c'est plus d'une centaine de personnes quand on réunit les EAP. Ça fait plusieurs années avant que j'arrive qu'il y avait chaque année une journée de formation commune des EAP de Cahors et de Tulle. Alors, c'est un élan qui existe.
Je vous posais une question complètement idiote, mais Tulle, ce n'est pas dans la province de Midi-Pyrénées. On a le droit de dialoguer avec un évêque qui n'est pas dans la même province que soi?
On a tout à fait le droit de vivre la collégialité épiscopale, c'est avec tous les évêques du monde, en communion avec le pape, ce qui est le cas de l'évêque de Tulle.
C'est aussi votre voisin. Oui. De l'autre côté,
c'est notre voisin et nous avons aussi des préoccupations assez proches, dans le sens que il y a, même si il y a des différences, mais la configuration de nos territoires se ressemble par bien des aspects. Voilà, l'histoire de nos diocèses n'est pas tout à fait identique, mais sur ce plan, en tout cas, nous nous retrouvons vraiment.
D'accord. Ça vous permet de concevoir ensemble des projets qui s'adressent à vos deux diocèses et qui peuvent aussi être copier-coller par d'autres diocèses.
Absolument.
Qui peuvent s'en
inspirer. En fait, cette réflexion sur les fraternités missionnaires locales, avec des vocabulaires parfois un petit peu différents, nous la menons aussi en province, avec la province de Toulouse. Oui. Nous l'avons beaucoup travaillé. Je sais que, notamment, Mgr Le Gall aussi incite beaucoup au développement dans la Haute-Garonne rurales de ces fraternités-là, peut-être même en ville. D'ailleurs, elles peuvent exister aussi en ville, hein, c'est pas réservé uniquement au rural, mais oui. Ça n'aura pas tout à fait le même profil. Les fraternités de quartier, les petits groupes ou les fraternités en ville se réunissent plus souvent autour de, par exemple, d'un thème de réflexion ou d'un projet de constituer un groupe de prière ou
pour s'alimenter dans la foi.
Oui, et puis parce que la vie de l'Église n'est pas organisée tout à fait de la même manière en ville qu'à la campagne, même dans des petites villes comme Cahors ou Figeac, c'est pas tout à fait la même réalité que dans le rural.
Et avec un projet comme celui-ci, on peut aussi toucher les jeunes ?
Eh bien, je pense qu'il y a un enjeu très fort. Par exemple, dans mes visites pastorales, j'ai pu remarquer que dans certains lieux, des équipes comme ça, parce qu'il y a des chrétiens, ont repéré qu'il y avait tel ou tel enfant qui n'était pas catéchisé. Mais il y en avait plusieurs et des parents qui étaient favorables et ils ont créé un groupe de catéchisme dans un village où il n'y en avait pas parce qu'il y a des chrétiens sur place qui ont été attentifs, qui ont repéré. Ça fait partie des choses qu'une fraternité locale peut stimuler. Et avec des adolescents ou des plus grands jeunes, c'est pas forcément le plus facile parce que souvent leur réseau, leur mode de fonctionnement est très éclaté et ils ont tendance plutôt à se déraciner du local. Mais ça n'empêche pas que si on a créé quelques liens avec des enfants, avec des jeunes adolescents. En grandissant, ils peuvent se sentir davantage partie prenante de la vie chrétienne locale, parce que justement, c'est à taille humaine, c'est autre chose que tous ceux avec quoi ils sont en contact par les réseaux sociaux, oui. qui est complètement éclaté, sans enracinement. Et il y a un vrai enjeu de percevoir la fraternité localement pour des jeunes. Je constate qu'il y a des jeunes ardents dans leur foi qui sont souvent enracinés dans leur expérience chrétienne. Même les aumôneries d'étudiants à Toulouse, qui rassemblent beaucoup de jeunes, évidemment, disent que la grande majorité de ces jeunes, en fait, ont découvert la foi dans le rural. Ils viennent peu du centre-ville. Et donc, il y a quand même une dimension très importante de cette proximité, notamment pour les enfants. Et en fait, ça peut germer ensuite dans le cœur des jeunes d'avoir vécu une expérience de fraternité avec les adultes lorsqu'ils vivaient à la campagne.
Et j'espère de tout cœur que ce que vous dites va faire réfléchir à nos auditeurs et les encourager à contribuer à construire ces fraternités missionnaires, parce que je pense que c'est un magnifique signe pour notre Église. Merci beaucoup, Monseigneur.
Merci, Thibault.
Rencontre avec nos évêques.